Bon, vous n'êtes pas des plus malheureux parce que vous n'avez mariné dans le péché que pendant quelques heures, alors que Saint Ignace laisse son retraitant pendant 8 jours. Il a le temps de descendre dans les profondeurs
et la nuit
avant d'en ressortir. Donc, ce chapitre, enfin, cette suite, c'est dire la. Là où le péché a abondé, la grâce a surabondé. Ce qui permet à Urson Balthazar de dire et d'écrire plus qu'aucun autre écrivain des temps modernes, Bernanos est le chantre de la grâce. C'est pas ce que disent les gens spontanément quand ils lisent du Bernanos. Il est le chant de la grâce. Et la cuisinière dans la joie dit le secret de cette maison n'est pas le mal, non, mais la grâce. Dans ce monde obscur, dans cet enfer sur la terre, chemine la grâce qui cherche par quelle fissure de l'âme humaine elle va pouvoir se glisser et faire éclater ce cœur de pierre pour en faire un cœur de chair, selon Ézéchiel. Dans la lettre aux Anglais, lettre de combat en 1940, pendant que les Anglais reçoivent les bombes et que leur aviation de chasse permet qu'on ne perde pas tout, il dit « L'expérience m'a prouvé trop tard qu'on ne saurait expliquer les êtres par leurs vices, mais au contraire par ce qu'ils ont gardé d'intact, de pur, par ce qui reste en eux de l'enfance si profond qu'il faille chercher ». Donc déjà, vous avez ce thème de l'enfance qui va être capital. On sait l'importance de l'enfance chez Bernanos. Devant les personnages, il se demandait souvent quel enfant ont-ils été. Et il se pose la question pour Hitler, pour Staline, pour Georges, pour Charles Maurras, qu'il ne faut pas assimiler complètement à Staline et à Hitler, mais enfin, après, ils se sont séparés. Alors, je vous ai dit que pour facilité pédagogique, il a bien fallu traiter les ténèbres avant la lumière, mais que dans la vie, dans le réel et dans les romans, tout ça se mélange. L'abîme appelle l'abîme, dit le psaume 42. L'abîme du péché appelle l'abîme de la grâce. Infiniment plus vaste parce qu'il s'identifie à l'amour miséricordieux trinitaire, exprimé dans l'incarnation de Jésus. L'amour du Christ descendu aux enfers, non pas en enfer, mais aux enfers, a dépassé l'enfer, car il a porté sur lui le péché du monde, abandonné du Père à Gethsémani et sur la croix. C'est sur ce dépassement de tout enfer par le mystère de la croix rédemptrice que repose toute l'espérance du chrétien. Et cette espérance est par principe illimitée. C'est parce que les voies du péché sont rigoureusement sans issue que Dieu songe à en créer une, dit encore Balthazar. Aussi loin qu'aille le pécheur dans le mal, il peut encore rencontrer Dieu. C'est ce que dit le curé de campagne à la jeune Chantal, révoltée et haineuse. Jetez-vous en avant tant que vous voudrez, il faudra que la muraille cède un jour et toutes les brèches ouvrent sur le ciel. Au passage, je dis que les personnages de Bernanos qui s'enfoncent aussi bien dans le bien que dans le mal sont un peu de la même race. Et dans le fond, c'est celui qui va jusqu'au bout du mal qui risque de rencontrer enfin le salut. Par rapport à certaines médiocrités qui restent sans prise réelle. Dans l'extraordinaire dialogue entre le prêtre de campagne et la comtesse Muret dans son désespoir après la mort de son enfant, il lui dit « Madame, si votre Dieu était celui des païens ou des philosophes, pour moi c'est la même chose. Il pourrait bien se réfugier au plus haut des cieux. Notre misère l'en précipiterait. Mais vous savez que le nôtre est venu au-devant. Vous pourriez lui montrer le poing, lui cracher au visage, le fouetter de verge et finalement le clouer sur une croix. Qu'importe, cela est déjà fait, ma fille. Le pécheur ne peut pas aller plus loin que ce qu'a été la passion de Jésus. Et ce qui permet à Bernano de dire dans Les Enfants humiliés, Dieu sait, seul sait la part du péché dans l'œuvre du salut. Il rejoint là la phrase la plus hardie de notre liturgie catholique, chantée par le diacre à l'exultète, la nuit de Pâques, heureuse faute qui nous a valu un tel rédempteur. C'est quand même une phrase hardie que nous chantons tous les ans au cœur de la vigile pascale. On ne peut pas dire, le péché, ça n'a aucune importance, alors tout va s'arranger, mon père. Avec la miséricorde de Dieu, j'ai bien braqué deux banques et tué mon père et ma mère, mais enfin, tout ça peut s'arranger. Non, c'est pas ça. Mais enfin, le ressort, ça a été, dans le fond, c'est l'enfant prodigue qui est parti, et c'est en allant là-bas manger ce que lui donnent les cochons qui va découvrir l'amour du père en revenant. Alors que le fils qui est resté à la maison, qui est tout à fait réglo, qui va à la messe le dimanche et paie le dîner du culte, il dit à son père, mais tu ne m'as jamais rien donné, et tout ça. Mais il est à la maison, mais il n'a jamais dit. Le père lui dit, tout ce qui est à moi est à toi, mais lui, il n'a jamais compris ni l'amour du père, ni l'amour de son frère. Citant l'Épître aux Romains 8, 26, un texte attribué à saint Augustin peut dire, « Tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, et siam peccata, même le péché. » Je fais remarquer que c'est Claudel qui a mis ces deux mots latins en épigraphe à son sous-soulier de Satan. Soulier de Satan, même le péché. Donné à prouesse, enfin, les deux auront, en allant jusqu'au bout, ils vont finir par rencontrer Dieu. Et siam peccata. Quant à Peggy, vous voyez, c'est intéressant de réunir les trois. Quant à Peggy, toujours audacieux et direct, il dit « Le pécheur est au cœur de la chrétienté. Nul n'est aussi compétent en manière de chrétienté que le pécheur. » Nul, si ce n'est le saint. Voilà une belle épigraphe pour ce qu'on est en train de dire. Rappelons-nous un roman célèbre à l'époque de notre jeunesse, « Les saints vont en enfer », le 16 Bron. Chez Bernanos, le mot « saint » évidemment doit être précisé. Pris dans son sens habituel, ce sont des êtres exceptionnels dont la vocation peu ordinaire les a conduits, avec l'héroïcité des vertus jusque sur les autels, mais même si dans sous le soleil de Satan et dans la joie, Bernanos emploie ce mot, l'abbé Donissan, il le qualifie de saint de l'imbre. Et la mort de l'abbé Échevance fait penser à celle d'un saint, dit le docteur Lapérouse. Il se défend de l'utiliser selon le sens défini plus haut. « Ah non, je ne suis pas si hardi de me proposer d'écrire jamais, de recomposer du dedans la vie d'un saint. Je dis d'un saint véritable, un saint authentique, donné pour tel par l'Église. Hélas, il y a trop d'essais malheureux. Et même à supposer un saint imaginaire, ce serait folie de vouloir forcer les mots à exprimer ce qui est, par sa nature inexprimable, la paix au-dessus de tout langage. » Il a quand même écrit un petit fascicule admirable sur Jeanne, relapse et sainte, et il a écrit un petit fascicule sur la base de la table sur Saint Dominique. Enfin, on ne peut pas dire que c'est une vie de saint vraiment. Pour lui, il y a un type de l'homme chrétien, et ce type est consacré par l'Église elle-même, c'est le saint. Et là, nous retrouvons le sens de Saint Paul qui appelle les Corinthiens et tout ça, ou ses correspondants, les saints qui sont à Corinthe. Les saints qui sont à effet joyeux. Dans la famille de saint Bernanosien, le premier rencontré chronologiquement, évidemment, est quand même un peu à part. C'est l'abbé Donissan dans Sous le soleil de Satan. Il est qualifié d'athlète de la sainteté, puissant, tenté par la démesure, affrontant directement Satan, essayant même de redonner la vie à un enfant mort. C'est sûr que là, l'ombre du curé d'Ars flotte un petit peu par derrière. Mais Bernanos évoluera assez rapidement. Ces saints sont d'abord des hommes et des femmes ordinaires. Ils ne sont pas non plus des êtres falots ou fades, souvent décrits dans une littérature hagiographique pieuse. Chantal de Clergerie est une belle jeune fille, sportive, qui aime ses chiens, sa voiture, et son père, qu'elle déconcerte, voudrait la voir s'enfermer en quelques couvents. Il n'en est pas question, elle restera laïque. Le jeune curé d'Ambricourt, malgré ses faiblesses, est reconnu par Olivier, le légionnaire, comme appartenant à la même race que lui. On les voit unis dans la même joie lorsqu'ils foncent en moto dans la campagne. Tous deux aiment la vitesse, la vie, l'amitié. Et pourtant, les saints bananosiens connaissent de nombreuses faiblesses humaines. L'abbé de Nissan apparaît souvent dans un accoutrement ridicule. Il se révèle gauche, non dégrossi dans ses manières d'être. L'abbé Chevant, c'est un grand timide. On se moque de lui dans les milieux bien-pensants. Chantal de Clergerie subit une hérédité psychologique quelque peu inquiétante. Sa grand-mère, Mama, dans le roman, frôle la folie. Chez le curé de campagne, issu de paysans et de cabaretiers, l'hérédité vient de l'alcool. Il se révèle maladroit, peu apte à certains travaux concrets de son ministère. Ses paroissiens, qu'ils soient ruraux ou nobles, ont tendance à le mépriser. Et ses confrères s'étonnent de son style de vie. Blanche de Lafort, dans Dialogue des Carmélites, est née dans une famille noble, traumatisée à sa naissance par les péripéties de la Révolution française, d'où une peur viscérale qui la suivra jusqu'à l'ultime moment de son retournement face à la guillotine. Dans une magnifique conférence faite à Tunis pour les petites sœurs de Charles de Foucault, à l'automne 47, Dananos mourra quelques mois plus tard, il disait, dans un texte qui s'appelle « Nos amis les saints », qui est tout à fait remarquable, qui est paru dans « La liberté, pourquoi faire ?» je crois. « La maison de Dieu est une maison d'hommes et non de surhommes. Les chrétiens ne sont pas des surhommes. Les saints pas davantage ou moins encore, puisqu'ils sont les plus humains des humains. Les saints ne sont pas sublimes. Ils n'ont pas besoin de sublimes. C'est le sublime qui aurait plutôt besoin d'eux. Les saints ne sont pas des héros à la manière des héros de Plutarque. Un héros nous donne l'illusion de dépasser l'humanité. Le saint ne la dépasse pas, il l'assume. Il s'efforce de la réaliser le mieux possible. Comprenez-vous la différence? Il s'efforce d'approcher le plus près possible de son modèle Jésus-Christ, c'est-à-dire de celui qui a été parfaitement homme, avec une simplicité parfaite, au point précisément de déconcerter les héros en rassurant les autres, car le Christ n'est pas mort seulement pour les héros, il est mort aussi pour les lâches. D'une manière ou d'une autre, chacun sa vocation, les saints vont être jetés dans la bataille, le combat spirituel, et affrontés aux pécheurs et aux saints. L'abbé de Nissan rencontre donc directement le diable avant de rencontrer Mouchette sous le soleil de Satan. L'abbé Chevant se trouve face à face avec l'abbé Sénabre et après sa mort difficile, celle de Chevant, il va passer le relais à sa fille spirituelle, Chantal de Clergerie, qui à son tour se trouvera face avec le prêtre imposteur. Mais elle, en outre, est cernée dans cette maison bourgeoise, apparemment si tranquille. Elle doit affronter son père, qui est un médiocre, sa grand-mère privée de raison, le médecin psychiatre Lapérouse et le russe pervers Fiodor. Elle y laissera d'ailleurs la vie. Le curé de campagne se trouve au centre de sa paroisse, livré aux commerçants, avares, aux enfants du catéchisme, aux habitants du château, le comte volage, sa femme renfermée, sa fille révoltée, incompris, lui-même incompris de ses supérieurs. Quant au curé de Fenouille, livré à un combat généralisé, sa paroisse est morte, décomposée par l'influence insidieuse de M. Wynne et le meurtre du petit Vacher. Il reste les carmélites de Compiègne, prises malgré elles dans le piège tendu par les révolutionnaires jusqu'à la guillotine. Le symbole en est le personnage de Sœur Blanche, livrée à ses peurs irraisonnées. Cependant, par leurs paroles et surtout par leur seule présence, les saints débusquent le mal. Alors, là, vous avez une phrase de M. Witt, « La terre fermente autour de l'innocent ». Vous savez que le père Le Guillou a écrit un très beau livre qui s'appelle « L'innocent », qui est Jésus. On voit dans l'Évangile, encore vu ces jours-ci, quand Jésus apparaît, il ne dit rien, il arrive, et qu'est-ce que font les possédés? Les démons se mettent à crier, « Nous savons qui tu es, va-t'en, etc. etc. » Bon. Il en est un peu semblable pour les saints de Bérénice. Cela vaut d'étonnants dialogues, des combats puissants, d'où le pécheur sort vaincu. Ainsi Donissant devine Mouchette, il a même le charisme de lire en elle, et il la sauvera in extremis en la portant à l'église. L'abbé Senat, bien supérieur intellectuellement à l'abbé Chevance, sera deviné par lui, et la foudroyante simplicité de Chantal le poussera à prononcer finalement « Pater Noster ». Le roman se termine comme ça, il s'effondre, mais il dit « Pater Noster », il est revenu à la prière fondamentale. L'exemple célèbre se trouve dans le journal lorsqu'au terme d'un affrontement sans concession, la comtesse rend les armes et retrouve la paix. Le jeune prêtre constate « J'ai l'impression que ma seule présence fait sortir le péché de son repère, l'amène à la surface de l'être, dans les yeux, la bouche, la voix. » Qui sont ces saints? Ils ont en commun d'être des enfants, au sens de l'enfance évangélique et au sens de l'enfance spirituelle. C'est ce que dit le chanoine de la Botte Meuvron à son jeune confrère. « Que voulez-vous, mon enfant? Les gens ne haïssent pas votre simplicité, ils s'en défendent. Elle est comme une espèce de feu qui les brûle. Vous vous promenez dans le monde avec votre pauvre, humble sourire qui demande grâce et une torche au poing que vous semblez prendre pour une houlette. » Évidemment, ça fait des dégâts. Bernanos dira, l'espérance chrétienne, c'est comme si on jette une allumette dans un baril de poudre. La simplicité radicale des saints s'exprime dans un charisme de pénétration des cœurs. La comtesse demande au curé d'Andricourt, « Vous avez le pouvoir de lire dans mon cœur ?» Il répond sans hésiter, « Je crois que oui, madame. » Il ne s'agit pas de curiosité psychologique, celle des écrivains et des psychiatres des romans de Bernanos, mais de l'expression d'un amour de l'autre qui devient connaissance. Et Bernanos a écrit, « Il n'y a qu'un sûr moyen de connaître, c'est d'aimer. » Ce charisme surnaturel de la connaissance des cœurs participe à la vision authentique de la réalité spirituelle invisible telle qu'elle apparaît à Dieu lui-même. Cette foudroyante simplicité, citation, libère le pécheur de son enfer intérieur. Là encore, l'exemple décisif, c'est celui de la comtesse qui écrit, après la rencontre avec le jeune curé, une lettre le soir même, « Le souvenir désespéré d'un petit enfant me tenait éloigné de tout dans une solitude effrayante. Et il me semble qu'un autre enfant m'attirait de cette solitude. J'espère ne pas vous froisser en vous traitant ainsi d'enfant, vous l'êtes. Que le bon Dieu vous garde tel à jamais. Je me demande ce que vous avez fait, ou plutôt, je ne me le demande plus. Tout est bien. Je ne suis plus résignée, je suis heureuse. » Le « tout est bien » annonce déjà le « tout est grâce ». On l'a saisi, la grâce puissante passe à travers les saints. Ce pouvoir extraordinaire ne vient pas d'eux. Eux-mêmes peuvent reconnaître de grandes épreuves intérieures. Nous ne le verrons pas parce que je ne pourrai pas vous faire tout le cheminement de la paix de curé d'Ambricourt. Bon, enfin, on ne peut pas tout dire. Vous lirez ça dans un excellent livre qui paraîtra un jour. Mais c'est ça chez lui. Hein. Il a de grandes épreuves intérieures, des purifications, des nuits, mais la grâce passe quand même à travers lui. Et dans le fond, c'est ça aussi le cas du sacerdoce. Nous verrons. Et pourtant, il donne la paix qui surpasse toute connaissance. Après la libération de la comtesse, le prêtre, dans son journal, écrit « Ô merveille qu'on puisse faire ainsi présent de ce qu'on ne possède pas soi-même, ô doux miracle de nos mains vides. L'espérance qui se mourait dans mon cœur, il était en pleine nuit, a refleuri dans le sien. L'esprit de prière que j'avais cru perdu sans retour, Dieu le lui a rendu, et qui sait, en mon nom peut-être, me voilà dépouillé. » Et l'abbé de Nissan l'avait déjà expérimenté. C'est ainsi qu'il donnait à pleine main cette paix dont il était vide. Apparemment, enfin dans son épreuve. Pensons à Mère Teresa, à sa grande épreuve qui a duré des années. Alors Mère Teresa, toujours souriant, toujours auprès des morts, mon Dieu, Mère Teresa. Et puis, on découvre que, pendant des années, dans une nuit absolument terrible, qui était précisément, sans doute, la force de l'incroyable apostolat qu'elle faisait, qui fait que sa congrégation s'est répandue à une vitesse incroyable, elle a fini par apercevoir que son épreuve intérieure était une épreuve apostolique, comme l'épreuve de la petite Thérèse, etc. C'est ça que vivent les saints de Bernanos. La fameuse formule entendue si souvent dans ma vie, dans les récollections, les retraites, « On ne peut donner que ce qu'on a », vérifié au plan humain, ici n'a aucun sens. Bernanos dit « La loi d'un pauvre chrétien, c'est précisément donner ce qu'il n'a pas. Sans cela, où serait la charité? Où serait le doux miracle de la charité? Nous ne recevons rien que nous n'ayons d'abord donné. Entre nous, il n'est qu'échange. Dieu seul donne, lui seul. » Enfin, petite parenthèse, ça me rappelle, on vient en récollection, en retraite, pour recharger ses batteries. Une fois qu'on les a rechargées, on part dans le monde, et elles se déchargent. Et puis après, on reviendra. Ça me fait penser à une spiritualité de garagiste. Je ne dis pas qu'on ne perd pas de la vigueur en temps après, mais enfin, ce n'est pas seulement comme ça. Hein. Justement, là, on donne ce qu'on n'a pas, c'est-à-dire, ça nous dépasse infiniment. Encore une fois, c'est le mystère du sacerdoce, mais aussi du sacerdoce commun des fidèles. Nous nous citons donc ici au cœur de la communion des saints, qui est tellement capitale chez Bernanos, et sans laquelle on ne comprend rien. Cette mystérieuse solidarité qui institue le partage entre le monde pécheur et celui de la grâce. Bernanos, dans l'amour, personne ne vit simplement son propre destin et pas davantage dans le péché, mais que des destins étrangers ont part à celui de tous et que chacun trouve le sien représenté dans la vie des autres. En un sens infiniment plus profond que les chrétiens même ne le supposent, la vie et la mort sont échangeables au sein de ce corps unique et qu'il faut véritablement appeler mystique. Excusez-moi, ça c'est pas du Bernanos, c'est du Balthazar. Bon, enfin, s'il exprime ce que veut dire Bernanos. C'est ainsi que dans Monsieur Wynne, le petit Guillaume, qui est un petit infirme avec des béquilles, dit à Philippe, le garçon révolté, « Il me semble que toutes vos peines passent par moi. » Et l'autre répond, non sans un certain cynisme, mais en vérité, « Tu sais nos conventions, je fonce droit devant moi toujours. Si la vie n'est qu'un obstacle à forcer, je le force. Je sortirai de l'autre côté tout écumant, tout sanglant. Et toi, tu me suis, mais de loin. Nous te verrons déboucher à ton tour, portant le poids de mes péchés. Enfin, tu es mon âme, fiche-moi la paix. Notre salut, c'est ton affaire. » Bon, ça ne manque pas de cynisme, mais il a conscience que quelqu'un, c'est quand les pécheurs disent à des carmélites, priez pour moi, etc. Bon. A lieu ici un admirable échange, comme l'affirme la liturgie catholique. Et là, c'est encore. Non, c'est lui. Il y a une communauté des saints avec les pécheurs, une communauté des pécheurs avec les saints. La participation des saints au destin des pécheurs apparaît elle-même à la participation du Christ à la perdition de tous les hommes. Ça, c'est du Balthazar. L'agonie, la passion de Jésus sont le lieu de la communion des saints. Cette communion repose sur la communion trinitaire. Et là, cette fois, c'est du Bernanos. Nous apprendrons de Dieu le jour venu quel lien mystérieux lie les grands pécheurs aux grands saints. Et comment ne pas penser à Thérèse et à l'assassin Franzini et à tant d'autres. Cette substitution joue aussi entre les chrétiens. Dans Dialogue des Carmélites, la communauté est scandalisée par la mort angoissée de sa prieure, considérée comme une sainte. Mais la jeune sœur blanche, pétrie de peur dès son enfant, ira librement vers la guillotine. Sœur Constance, qui est merveilleuse, sœur Constance qui est... Enfin, on a dit, on verra ça sur l'altan, je ne sais pas. Constance et Blanche sont deux aspects de Thérèse de Lisieux. Constance est un peu Thérèse de l'enfant Jésus et Blanche est Thérèse de la Sainte Face. Bon, enfin, il y a un peu de ça. Alors, sœur Constance, elle dit, qui aurait pu croire qu'elle aurait tant à peine de mourir notre prieure, qu'elle saurait si mal mourir. On dirait qu'au moment de la lui donner, le bon Dieu s'est trompé de mort. Comme au vestiaire, on vous donne un habit pour un autre. Oui, ça devait être la mort d'une autre. Une mort pas à la mesure de notre prieure. Une mort trop petite pour elle. Elle ne pouvait pas réussir à enfiler les manches. Alors, sœur Blanche dit, la mort d'une autre, mais qu'est-ce que ça vient vouloir dire, sœur Constant? Ça veut dire que cette autre, lorsque viendra l'heure de la mort, s'étonnera d'y entrer si facilement et de s'y sentir confortable. On ne meurt pas chacun pour soi, mais les uns pour les autres, ou même les uns à la place des autres, qui sait? Et précisément, ce sera le cas de sœur Blanche. Donc ça me paraît aussi important, c'est la négation de tout individualisme chrétien, qui est encore bien fort, mais bon, ça, alors que nous sommes liés au peuple de Dieu, à tous les membres, d'une manière ou d'une autre, toujours. Nous l'avons dit, toute vocation est une mission. Les saints Bernanosiens sont des envoyés à la suite de Jésus pour être témoins en ce monde, pour annoncer son salut et son amour miséricordieux. Alors évidemment, Jésus n'apparaît jamais dans les romans. Ben oui. Mais qu'est-ce qui est présent dans les romans? C'est les saints, c'est-à-dire l'Église, dont on ne parle pas beaucoup non plus, enfin les saints. Mais toute mission, je vous l'ai dit, est une passion. Tous les saints bernanosiens suivent un itinéraire pascal qui passe par l'agonie de Gethsémanie et le calvaire, là où s'est réalisé le plus grand amour du crucifié ressuscité, aimant jusqu'au bout. Donc tous les saints passent par une agonie et une passion. Celle-ci traverse la tentation du désespoir que nous avons évoquée, qui touche aussi bien les saints que les pécheurs. Donnissan se situe aux avant-postes de la lutte contre le mal. Combat spirituel aussi brutal que la bataille d'hommes, disait Rimbaud. Comment délivrer l'avare rongé par son cancer, le luxurieux comme un cadavre, l'ambitieux plein d'un seul rêve, l'envieux qui toujours veille. Dans une scène dramatique, le saint de l'Indre, Donnissan, confie son désespoir au curé de Luzarne, un bled à côté, complètement atterré d'entendre. Nous sommes sous les pieds de Satan, nous sommes débordés, noyés, recouverts, nous sommes vaincus, vous dis-je, vaincus, vaincus. La redoutable question, à quoi bon? Et le prêtre est tenté de se laisser mourir. Alors, poussé par une fureur combative, il apprend que le fils des Havrais vient de mourir, petit enfant, et il décide d'affronter Satan sur son terrain, celui de la mort. En un mot, il veut tenter de rendre la vie à l'enfant. Alors certains lecteurs, choqués par cette scène de démesure, n'ont pas saisi qu'elle se situe dans la vision de foi de Bernanos. Le prêtre qui a rendu d'innombrables âmes à la vie ne pense pas outrepasser ses pouvoirs en voulant redonner vie à un corps. La foi qui transporte les montagnes peut bien ressusciter un mort, pense-t-il. Mais il échoue. Même si à un moment, il a la sensation que le petit corps s'animait. Il ne lui reste plus que la fuite. Ce lamentable épisode confirme l'expérience de tant d'autres personnages bernardosiens, l'homme est radicalement impuissant devant la mort. Comme dit le Arsène, cette fois c'est le sacristain, et qui est un jour avec son curé dans le journal que compagne, il dit « Quand on est mort, tout est mort ». Ça c'est le bon sens paysan. Mais telle n'est pas la vision de l'auteur. L'abbé de Nissan a échoué dans sa téméraire entreprise parce qu'il n'avait pas l'intention d'un authentique disciple de Jésus-Christ. Il a fait à ses propres forces. Entrant dans la chambre mortuaire, son visage reflétait le masque d'un héros et non pas d'un saint. Devant le cadavre, l'abbé ne prie pas, il ne peut pas prier, il ne supplie pas, mais éprouve une certaine rage, une colère surhumaine qui veut prendre sa revanche sur Satan. Il n'implore pas, il exige, croyant servir Dieu, il le tente. Mais, dit Bernanos, Dieu ne se donne qu'à l'amour. Au seuil de l'œuvre, cette scène symbolise la lutte que soutient le saint contre le péché, source de mort. Évidemment, c'est un cas limite, récit de la tentation de ramener un cadavre à la vie, mais ça prend valeur exemplaire. Toutes les tentations du désespoir rencontrées dans les romans témoignent de la violence d'un combat dont Satan, pour un temps, semble sortir vainqueur. Le curé de Fenoux n'affronte pas le diable, mais M. Wynne. Moins spectaculaire, mais plus subtil, plus insidieuse que dans Sous le soleil, la tentation du désespoir devant l'omniprésent du mal est toujours sous-jacent. M. Wynne l'avait dit au curé, « Vous ne serez pas déçus, mais dissous, dévorés. » L'abbé Chevant, dans l'imposture, va entrer dans l'agonie, démuni, devant sa fille spirituelle, Chantal, interdite de ses résistants. Il lui dit, « Je ne voudrais pas mourir, ma fille. Il est dur de mourir, ma fille. » C'est à elle qu'il va transmettre le poids du salut de l'abbé Sénard. À son tour, Chantal va entrer dans sa passion, la sienne. Elle mourra assassinée par Fiodor. C'est la cuisinière Fernande qui exprimera le sens de cette agonie. Elle ne m'ôtera pas de l'idée qu'elle a voulu cette mort-là, pas une autre, celle-là. Elle aura tout renoncé, monsieur, je vous dis, même sa mort. Elle aura tout renoncé, même sa mort. Je dois vous dire que lorsque le cardinal Danielou est mort, dans les conditions qu'on sait, j'ai pensé à cette phrase. Elle aura tout renoncé, même sa mort. Et Jésus, c'est pareil. Il aura tout renoncé, même sa mort. Avec dialogue de Carmélite, la passion de sœur Blanche de la sainte agonie du Christ, c'est son nom, s'insère dans celle de toute la communauté. Les 16 Carmélites, qui, je vous rappelle, ça c'est historique, ont fait vœu du martyr. Elles ont fait vœu du martyr pour la fin de la terreur et pour la France. Or, historiquement, on sait que peu de temps après leur mort, Robespierre a été guillotiné et la terreur s'est arrêtée. Toutes ces passions continuent celles du Christ. Son corps mystique, l'Église, le perpétue dans le temps et dans l'espace. Ce n'est pas un hasard si tous les saints bernardosiens se retrouvent, comme il dit, prisonniers de la sainte agonie. Nous le verrons, c'est le curé d'Andricourt qui a le plus explicité cette vocation. Bon, on ne le verra pas, mais enfin, vous pouvez y aller voir. Ce que Bernanos a fait vivre à ses personnages, il n'y est pas étranger. Le 16 juin 42, il écrit à un ami brésilien. Lorsqu'on vous accusera de devenir chaque jour plus bête depuis que vous êtes mon ami, ne vous fâchez pas, c'est vrai. Dans la démocratie de demain, dont les intellectuels brésiliens saluent l'autre jour l'avènement, nous tiendrons le rôle d'idiot. Rappelez-vous l'idiot de Dostoïevski. Et ça durera longtemps, ça durera peut-être toujours, nous passerons peut-être directement de l'humiliation dans la mort et de la mort en paradis. J'ai passé une grande partie de ma vie à entendre ridiculiser ou blasphémer les vérités que je m'efforce de servir. Je commence à comprendre que cela n'était rien encore. La pire épreuve, l'épreuve que j'attends, c'est de voir retourner contre nous ces mêmes vérités déformées et trahies. Depuis 2000 ans, les générations des chrétiens n'ont rien d'autre à faire que revivent les unes après les autres la passion du Seigneur. Mais la nôtre entre dans le plus intime et le plus profond secret de cette agonie, la solitude totale, le total abandon. Je crains qu'on ne nous fasse même pas l'honneur de nous tuer. Enfin, ce n'est pas une raison pour s'attrister outre mesure. Si cet itinéraire est pascal, il aboutit à la résurrection. Mais évidemment, dans les romans, on ne voit pas la victoire de la vie, comment dirais-je, explicitement. Il n'y a pas de facilité apologétique dans les romans de Bernanos. Hein. En général, les romans, même les cathos, finissent bien « happy end ». Hein, et la cavalerie légère arrive quand même pour sauver le héros et que l'héroïne lui tombe dans les bras et puis c'est terminé et on va se coucher. Donc, il n'y a pas de happy end. Mais, il faut savoir lire. Chaque lecteur réagira à sa manière. Mais il y a des ambiguïtés qui peuvent être lues d'une manière ou d'une autre. Il y a quand même des signes qui sont donnés discrètement et attestent la victoire de la vie. Ils correspondent à ce que saint Paul appelle les fruits de l'esprit, amour, joie, paix, patience, bonté, bienveillance, foi, douceur, maîtrise de soi. Galates 2, 22-23. Un des premiers signes est la paix, au sens où le Christ donne sa paix, qui n'est pas celle du monde. L'écrivain saint Marin, curieux du succès de l'abbé de Nissan, accueillant des foules dans son confessionnal, j'ai pensé au curé d'Ars, le trouve mort d'une crise cardiaque à son poste, dans son confessionnal, telle une sentinelle tuée d'une balle dans sa guérite à bout portant, dit Pavlos. Et l'auteur met cette prière ultime dans la bouche du prêtre, mort. Nous ne sommes point ces saints vermeils à barbe blonde que les bonnes gens voient peints et dont les philosophes eux-mêmes enviraient l'éloquence et la bonne santé. Notre part n'est point ce que le monde imagine. Auprès de celle-ci, la contrainte même du génie est un jeu frivole. Toute belle vie, Seigneur, témoigne pour vous. Mais le témoignage du saint est comme arraché par le fer. Alors on dirait que le mort semble lancer un défi à l'illustre écrivain qui est là, qui est très déçu parce qu'il voulait voir le saint, et puis il est mort. Et alors ça se tient comme ça. Tu voulais ma paix, viens la prendre. Bon, dernier mot du roman. C'est aussi la paix, la joie, que l'abbé Chevance, mourant, reçoit ultimement de sa fille spirituelle, Chantal de Clergerie, déconcertée par son agonie difficile. Elle lui dit « Je voudrais vous donner ce que j'ai, ce que vous aimiez si fort et dont je n'ai plus besoin maintenant. Après Dieu, c'est à vous que je devais ma joie, vous dis-je. Reprenez-la, daignez la consommer tout entière d'un seul coup, seulement pour franchir ce petit passage. » Et après quelques instants, au moment de mourir, l'abbé Chevance articule « Ma petite fille, j'ai pris ce que vous m'avez donné. » Il a pris sa joie de Chantal. Mais il va, je puis dire, lui refiler l'abbé Sénat à s'occuper d'autre chose. Nous savons que la comtesse, délivrée, a trouvé la paix et la réconciliation avec Dieu et avec elle-même. Voilà un thème fondamental au terme du chemin christique, c'est la réconciliation avec Dieu, bien sûr, mais aussi avec soi-même, ça sera la finale du curé de campagne. Ce sera tout l'itinéraire du curé de campagne, une réconciliation après lui-même, dans un combat ultime dont le célèbre « Tout est grâce » emprunté à Thérèse de Lisieux sera sa dernière parole avant de mourir. Nous, je vous dis là, dans une autre conférence, on suivrait tout ce chemin. Bon. Et on voit évoquer dans son chemin toutes les réalités évoquées, le péché, la grâce, le désespoir, la mission, la communion des saints, l'agonie, la mort et la paix. Alors, avant d'entrer dans cette méditation, et là je suis pris d'incertitude, eh bien, on s'arrête sur une réalité, enfin dans ma retraite, parce que ça c'est une retraite, sur une réalité fondamentale, la prière contemplative. Alors, cher Bernard, que faut-il faire? Faut-il engager la prière contemplative au détriment, mais pourquoi pas, de l'influence de Thérèse au Bananos, qui pourrait... Est-ce que si je parle là-dessus, on en a pour un petit moment.
Je sens de la salle.
Les deux, ben les deux en général. Mais, moi je veux bien, mais moi j'ai jusqu'à minuit ce soir, hein, pas de problème. Thérèse. Ben, mais Thérèse, bon.
C'est-à-dire Thérèse, ça pourrait être une conférence un samedi après-midi.
Ah bon.
Non.
Moi je peux.
Un samedi après-midi, on garde tous sans mémoire cette belle proposition. Et puis vous peut-être continuer dans la
prière. La prière. Il me semble qu'à Notre-Dame de Vie, la prière contemplative, ça peut intéresser. Je ne sais pas. Notre premier devoir est la prière, dit la prieure des dialogues de Carmélite. Alors, je prends la prière successive de différents saints bernanosiens, dont vous commencez maintenant à voir un petit peu, ils reviennent souvent. L'abbé d'Onissant. La prière de l'abbé d'Onissant. Dans ce œil de Satan, il se révèle un homme de prière. Son confesseur a décelé chez lui un goût exagéré de l'oraison. En fait, il aime, alors c'est plein de citations, hein, l'humble prière vocale. Longtemps, la simplicité du saint de l'humble lui a fait douter qu'il fût capable d'oraison, alors qu'il la pratiquait quotidiennement, et on peut dire à toute heure du jour. Autant dire qu'il vit l'idéal de tout priant, la prière continuelle. En toute occasion, elle lui vient spontanément du cœur aux lèvres. Ainsi, lorsqu'il veut s'expliquer avec l'abbé Menou-Segret, durant toute la rencontre avec le maquignon diabolique. Lorsqu'il a débusqué l'ennemi, alors sa prière devient exorcisme. Une seule fois, Bernanos évoque un stade plus élevé de la contemplation, la nuit de Noël, après une longue conversation avec le curé doyen, à genoux, au pied de son lit, l'abbé d'Onissant éprouve cette joie mystérieuse qui est une présence, vision intérieure très brève mais éblouissante. La dilatation de la joie a été jusqu'à la division de l'âme et de l'esprit. Il n'est pas possible d'aller plus loin sans mourir. Pourtant, au sein même de la joie, quelque chose subsiste encore que l'extase n'absorbe pas. À la première étape de l'ascension mystique, le cœur manque au misérable pris de vertige et de toutes ses forces, il essaiera de rompre ce recueillement passif, le silence intérieur, dont l'apparente oisiveté le déconcerte. Alors là, je dis tout de suite que Bernanos a fait un effort extraordinaire d'essayer de traduire les réalités de la, vie, de la prière comme peu d'écrivains l'ont essayé. Évidemment, il y a des gens, des techniciens de la vie spirituelle qui l'ont plus ou moins critiqué, tout ça, et parce que... Mais vous allez voir, il aboutit à des choses absolument étonnantes. Et ce n'est pas simplement parce qu'il a lu Jean de la Croix, Thierry Avila ou la Petite Thérèse qu'il a copié là-dedans. Ce n'est pas seulement ça. Hein. Souvent, les gens disent, mais où c'est qu'il va chercher tout ça? Or, Bernanos, c'était un homme de raison, mais il ne veut pas non plus parler sans raison. C'est pas ça. Bon, enfin, il a fait un effort, peut-être comme aucun écrivain français n'a fait, pour entrer dans... essayer de dire quelque chose. D'Onissant touché par là à la contemplation véritable, le silence passif en présence du mystère divin. Après les terribles affrontements avec Satan que nous avons évoqués, l'abbé d'Onissant va devenir ce confesseur qui attire les foules. On ne sait plus rien de sa prière, sinon par une remarque de sa gouvernante aux visiteurs curieux. Il passe plus d'une fois la nuit tout entière à genoux sur le pavé de son église. Mais ce premier roman n'est encore qu'une ébauche. La contemplation de Chantal de Clergerie dans L'imposture et la joie. Là, la prière devient un centre d'intérêt très grand. Chantal est une priante, Du coup, elle devient un cas intéressant pour l'abbé Senabre, qui étudie les mystiques, pour le psychiatre Lapérouse, friand de pathologie, et pour le chauffeur Fiodor, curieux et voyeur, car, dit-il, nous sommes submergés par une vague de mysticisme. Là, j'aurai une note importante. Nous sommes submergés par une vague de mysticisme. Nous sommes en 25, 26, 27, 28. Jean de la Croix, docteur de l'Église, Thérèse canonisée. Les revues se disputent à tour de bras sur l'oraison acquise ou infuse. Les dominicains, les jésuites, ils sortent le livre de Barousi sur Jean de la Croix. Les vies spirituelles. C'est fou, la revue d'ascétique et mystique. Tout le monde se passionne, enfin, dans certains mots, pour l'oraison. Ça fait un peu penser au XVIIe siècle, quand, bon, après, ça va se passer. Mais enfin, à ce moment-là, tout ça. Hein. Beaucoup de livres étudient le monde des mystiques. Bon, j'ai mis des notes. L'abbé Chevance, confesseur et directeur de Chantal, la considère comme une personne admirable. Il ne lui dit pas, évidemment, exceptionnelle, faite pour m'édifier, dont je n'aurai plutôt à recevoir que des leçons. J'assiste avec une espèce d'épouvante, véritablement avec terreur, à l'ascension vers Dieu, vers les plus hautes cimes de la contemplation, d'une âme assurément visitée par le Saint-Esprit, déjà hors de nous. Chantal, nous le savons, apparaît comme une jeune fille gaie, sportive, aimant la vie. Pour elle, le mot extraordinaire n'a pas de sens. Elle prie tout naturellement, comme elle respire, et comme elle chante. Je parle à Dieu sans cesse. Je sais très bien lui parler, il me semble. Je lui parle infiniment mieux que je ne le prie. Mais Chantal se croit incapable de faire oraison, déplorant de ne pouvoir fixer longtemps son attention sur ces petits thèmes proposés par de pieux auteurs, enragés à définir et à formuler. Ça, c'est tout. Là aussi, ben non, c'est pas tant pour ces innombrables « comment faire oraison ?» qui continue à pulluler, mais c'est bien intelligent, et qui coupe tout en rondelles. Là, il se pourrait que Bernanos ait un peu dans son acte certaines méditations jésuites qu'il ne faut pas condamner, mais parce que Saint-Ignace était un très grand contemplatif, mais enfin, voilà. Alors, je demande Chantal qui est au-delà de tout ça, tous ces petits bouquins, il n'apporte pas grand-chose. Thérèse disait, tous ces livres qui me cassent la tête et me dessèchent le cœur. Je reviens à l'évangile, disait Thérèse. Précisément, l'un des signes de l'entrée dans la prière contemplative est l'impossibilité de méditer, selon saint Jean de la Croix. Devant sa douce ignorance, citation, son vieux maître, l'abbé Chevant, lui conseille sagement de ne pas se demander si elle fait ou non oraison. Et que m'importe à moi de le savoir, pourvu que je m'applique à réaliser en vous, au jour le jour, l'ordre de la charité. En effet, c'est la charité qui est le but de tout. Car l'oraison n'est que moyen, il n'y a toujours qu'un seul objectif, devenir libre pour aimer. Mais la prière de Chantal va normalement rencontrer l'épreuve. L'abbé Chevance l'avait prévue et annoncée, sans se douter qu'elle prendrait la forme de sa propre mort, incompréhensible pour un cœur d'enfant comme celui de Chantal. Cette agonie marque, citation, pour jamais le pas décisif, l'entrée dans une solitude immense, affreuse, une marche à travers un pays inconnu, Dieu s'est fait invisible et muet. Chantal entre dans une nuit. Mais livrée entièrement à Dieu, ayant donné sa joie au vieux prêtre mourant qu'il a lui demandé, Chantal n'est plus que transparence. La charité rayonne en son regard et la transfigure. Sa prière s'est transformée. Citation. Était-ce l'oraison ? À vrai dire, elle n'en savait rien. Et d'ailleurs, elle n'eût pas osé appeler ainsi ce qui n'était encore pour elle qu'une étrange suppression de la douleur et de la joie, ou le lent évanouissement de l'un et de l'autre en un sentiment unique, indéfinissable, où semblait se fondre la tendresse, la confiance, une recherche inquiète et pourtant suave, et quelque chose encore qui ressemblait à la même pitié sublime qu'elle avait vu resplendir tant de fois dans les prunelles usées de son maître. En employant les verbes « couler »,« glisser »,« tomber » ou même l'image du sommeil, Bernanos tente de décrire cette prière. Fiodor, qui espionne Chantal, surprend son secret. Si le mot de sainte et d'extase ont un sens, vous étiez cette sainte en extase, lui dit-il. L'authenticité de cette prière se jugera à ses fruits. La grand-mère, rivée sur la possession des clés de la maison, signe de sa puissance et qui frôle la folie, finira par les remettre à Chantal, s'ouvrant enfin aux autres. Et la grand-mère dira à Chantal, « Tu devines tout, c'est merveilleux. » Et elle lui remettra ce trousseau de clés qui était le symbole de son égoïsme et de son désir de pouvoir sur tout le monde. Même le ficrat de la Pérouse rendra les armes. Chantal ne voit pas les cœurs par quelques charismes extraordinaires, comme l'abbé de Nissan, mais par l'intuition de sa compassion pour les pécheurs. La voici mûre pour entrer dans son chemin de croix, l'épreuve suprême qui lui fera affronter l'abbé Sénard et donner sa vie pour lui. Sa solitude s'accroît encore, car doutant de sa propre prière, elle n'a plus aucun soutien. Dieu se tait. Citation, elle sentit au profond de l'âme, jusqu'à la moelle des os, le délaissement sacré, seuil et porche de toute sainteté. Elle leva vers le Christ pendu au mur un regard avide et sans pouvoir se détourner plus longtemps de la source ineffable dont la soif la dévorait, elle glissa sur les genoux, se jeta dans la prière, les lèvres serrées, les yeux clos, comme on tombe ou comme on meurt. Jusqu'alors, elle n'était jamais entrée dans le monde étrange où elle avait seul accès que par une pente insensible. Cette fois, elle s'y sentit couler à pic. Littéralement, elle crut entendre se refermer sur elle une eau profonde, et aussitôt, son corps défaillit sous un poids immense, accru sans cesse, et dont l'irrésistible poussée chassa la vie hors de ses veines. Ce fut comme un arrachement de l'être, si brutal, si douloureux, que l'âme violentée n'y put répondre que par un horrible silence. Et presque dans la même incalculable fraction de temps, la lumière jaillit de toutes parts, recouvrit tout. Car à présent l'idée, la certitude de son impuissance était devenue le centre éblouissant de sa joie, le noyau de l'astre en flamme. C'était par cette impuissance même qu'elle se sentait unie au Maître, encore invisible, c'était cette part humiliée de son âme qui plongeait dans le gouffre de suavité. Lentement, avec des soins infinis, elle achevait de consumer amoureusement cette lumière éparse. Elle en concentrait le faisceau en un seul point de son être, comme si elle eût espéré faire ainsi sauter un dernier obstacle et se perdre en Dieu par cette brèche. Encore un court moment, le flot fut étal. Puis la vague flamboyante commença de baisser doucement, insidieusement, jetant çà et là son écume. La douleur venait de reparaître, ainsi que la dent noire d'un récif entre deux colonnes d'embrun, mais dépouillée de tout autre sentiment, réduite à l'essentiel, lisse et nue, en effet, comme une roche usée par le flot. À ce signe, mademoiselle de Clergerie reconnut que la dernière étape était franchie, son humble sacrifice reçu, et que les angoisses des dernières heures, les doutes et jusqu'à ses remords venaient de s'abîmer dans la prodigieuse compassion de Dieu. Voilà un effort de Bernanos pour essayer de dire. Porté par ce flot d'images, le lecteur s'enfonce avec Chantal dans l'épaisseur du mystère. Et comme elle, sans savoir comment, il se retrouve au jardin de Gethsémani, contemplant Jésus en agonie. Ces pages étonnantes suggèrent les étapes vécues par les mystiques. Sentiment d'être anéanti entre la vie et la mort, silence, contemplation du Christ, offrande de soi. Et Chantal, dans sa prière, est devant Jésus sur la croix, et tout d'un coup, elle se trouve devant l'abbé, sur la croix à Gethsémani, et elle est devant Judas. Et tout d'un coup, elle est devant Sénat. Chantal vit son jeudi saint, son sacrifice est consommé, elle s'est offerte, Fiodor sera le bourreau de son vendredi saint. Chantal, dans sa prière, voit Judas et rencontre Sénat. La contemplation n'apparaît plus comme un phénomène étrange, une anomalie, malgré l'ambiguïté des symptômes, mais comme le sens ultime de cette histoire. Elle est engagement progressif d'un être à la suite du Christ crucifié pour la libération des hommes. Cette petite cellule d'humanité malade de mensonges, qu'est la maison des clergeries, est illuminée et désaliénée par Chantal qui voit le sang des choses et des êtres. Et le livre se clôt sur le cri de l'abbé Sénard, Pater Noster, la prière chrétienne par excellence, celle des fils de Dieu réconciliés. Là, j'étais un peu vite, mais si vous lisez la joie, vous verrez. D'autre part, vous verrez dans la joie, ça, on en reparlera, que la spiritualité de Chantal est absolument celle de Thérèse de Lisieux. Chantal est une sorte de Thérèse dans le monde, une laïque dans le monde. Et si on fait une conférence un samedi après-midi, on reprendra tout ça. Là, carrément, Bernanos utilise un vocabulaire pratiquement celui de Thérèse pour bien, bien des comparaisons. Alors, maintenant, la prière des Carmélites, dialogue des Carmélites. Je ne parle pas de la prière du curé de campagne, parce que je ne sais pas si on va y arriver, enfin, on verra, peu importe. Enfin, je crois qu'on fait la pause, ça serait bon, avant la prière des Carmélites, que vous puissiez vous esbaudir un petit peu.